une menace aussi pesante que vague plana toute la nuit sur le bivouac des émissaires. Quelques feux brillaient au loin dans les murs de Vekinsberg, mais tout le reste de la plaine de Breckesen sommeillait dans de vastes ténèbres. Sur les murs en ruine de Bantraet, les silhouettes des sentinelles se découpaient nettement contre un ciel poudreux d'étoiles. La cour du Châtelet restait toutefois obscure. Afin de dissimuler le campement, le chevalier de Froek avait interdit d'allumer des feux. Peut-être cette précaution permit-elle à la nuit de passer sans incident, à moins que les Ouromans n'eussent décidé de jouer au plus fin avec les gens de Kimark. Dans l'heure grise précédant l'aurore, la troupe du banneret s'employait déjà à lever le camp. Après avoir avalé un encas frugal, archers et sergents faisaient leurs baluchons et harnachaient les chevaux. Des bêtes de somme étaient chargées de 4 coffres à belles pentures. Au vrai, il s'agissait d'un leurre, ces meubles ne contenant que des victuailles et une cuisine de campagne. Les 40 000 pièces d'or de la rançon, frappées dans diverses monnaies, se trouvaient en fait réparties dans les sacoches d'arçon de tous les hommes de guerre. Le chevalier de Froek avait commandé que chacun se tînt prêt à mettre le pied à l'étrier, que ce fût pour livrer l'argent ou pour fuir. Ordre avait également été donné d'attendre les 3 chevaliers jusqu'en fin de matinée. S'ils n'avaient pas donné signe de vie à midi, l'escouade devait battre en retraite et regagner au plus tôt le comté. Pendant que les gens de guerre pliaient bagages, les 3 chevaliers se faisaient armer par leurs pages et écuyers. L'apparente insouciance du seigneur elfe contrastait avec la gravité de ses 2 pères. Cette désinvolture n'était pas sans retenir l'attention de Gérian de Froek, qu'agaçait le badinage du chevalier Hopi avec ses pages. Le sire de Vaumacel, quant à lui, se laissait équiper avec une mine qui n'exprimait que la concentration.
« Restez sur vos gardes, » lui chuchota son vieux valet d'armes. « Cette tractation empeste la félonie. »«
Merci pour ta sollicitude, Nem. J'ai confiance en ma bonne étoile. »«
Vous n'en avez déjà que trop usé. Vous n'êtes même pas remis du précédent coup. »
À trop tenter la fortune, vous allez me laisser qu'elle sur les bras. Or, je suis trop vieux pour m'occuper seul du sacripant. »
Tout en bouclant une sangle, le page profita de la pénombre pour adresser une vilaine grimace à l'écuyer.
« Tenez-vous prêt, » ordonnait tranquillement leur maître. « Au besoin, n'hésitez pas à partir sans moi au mi-temps de la journée. D'une façon ou d'une autre, je trouverai bien le moyen de vous rejoindre. »
Sitôt qu'ils furent cuirassés, les chevaliers se mirent en selle. Pour parer à toute éventualité, ils montaient des destriers plutôt que des palefrois. Ils quittèrent les ruines alors que l'aube s'annonçait à peine. À l'est, un liseré de feu découpait les reliefs et la chevelure des forêts. Le ventre de quelques nuages se parait de teintes pastel qui allumaient des reflets glauques sur un méandre du fleuve. À l'opposé, le golfe se drapait encore dans un manteau de nuit. De tardives étoiles penchaient toujours au-dessus des abysses marins. Porteur de la sourdine des vagues, un vent de mer froissait les hautes herbes entre les jambes des chevaux. La pie, qui n'était guère matinale, somnolait tout ébouriffée sur l'épaule de Sir Hamelin. L'elfe, quant à lui, dressé sur ses étriers, humait avec plaisir les parfums de verdure, d'iode et de terre mouillée. Voir poindre le jour à la belle saison console de tous les drames, se réjouissait-il. Il ne nous manque que de nous séparer des bras d'une belle dame. Un sourire vague effleurait peut-être les lèvres du chevalier aux épines. Le banneret du comte, quant à lui, conservait un air grave. S'il trouvait ses compagnons un peu légers dans ces circonstances, il eut la courtoisie de n'en dire mot. À mesure que marchaient les preux, l'aurore agrandissait le paysage en le peignant de teintes chaudes. Elle étirait les ombres des cavaliers dans des scintillements de rosée, tout en lamant les bras lointains du fleuve de coulées d'or.
une marée d'argent et d'azur crêtait les flots du golfe, tandis que la nuit se retirait au large. Dans la lumière neuve, les couleurs vives des caparaçons, des écus et des cottes d'armes chatoyaient sur l'horizon marin avec une netteté de miniature. Malheureusement, le soleil levant éclairait aussi de tristes verrues. Sur l'autre rive de la baie Chanteclay, les rayons obliques semblaient allonger le gibet et ses pendus. Une petite troupe de carles bivouaquait sur le pont. Les chevaliers se trouvaient encore à une bonne demi-lieue qu'ils entendirent sonner le cor du gardien.
« Au moins, ce matin, nous sommes attendus !» grinça Gérion de Froec.
« Et mieux encore, nous sommes convoités !» ajouta Sir Hamelin en tournant la tête de droite et de gauche. « Voyez dans les roselières, un peu plus loin, d'autres guerriers embusqués. »«
Corps de roi !» gronda le banneret. « Attendons-nous au pire !»
Les trois compagnons continuèrent néanmoins d'avancer. Ils ne s'arrêtèrent qu'à portée de voix du pont sans s'y risquer. Même à cette distance, les remugles des têtes de chevaux et des corps pourrissants commençaient à les incommoder. Les barbares, qui occupaient l'ouvrage d'art, remballaient les peaux et les manteaux dans lesquels ils s'étaient roulés pour la nuit. Il y avait là une quinzaine de brutes qui barraient le passage avec l'air de s'être levés du pied gauche.
« Où est le tan du Farbog ?»
héla le chevalier de Froek.
« Où est monseigneur Claudas de Kimark ?»
Les ouromans s'agitèrent en éructant des grognements incompréhensibles. Quelques-uns brandirent des haches dans un geste de mépris plus que de défi. D'autres faisaient signe d'approcher avec de gros rires, tout en répétant «
Kimark ! Kimark !»
Les chevaliers se gardèrent d'avancer et demeurèrent sur le qui-vive. Du coin de l'œil, ils surveillaient la joncherie signalée par Sir Hamelin. Feuilles et épillets y était parfois brassé par des mouvements qui ne devaient rien au vent. La pie, qui avait fini par s'éveiller, prit son envol et tourbillonna au-dessus de la roselière en poussant de bruyantes ricasseries. Certains carles du pont firent mine de s'avancer vers les preux, tandis que les autres continuaient à les inviter avec une gaieté sinistre. Les barbares se lassèrent toutefois assez vite de ce manège et se désintéressèrent ostensiblement des trois émissaires. Du reste, le soleil levant brillait sur les armes d'une autre bande sortie de Vekinsberg. Dans cette troupe guerrière se détachent trois ou quatre cavaliers, avertit rapidement l'elfe. Ses deux compagnons eurent l'espoir que Claudas de Kimark pouvait en être. Mais le chevalier au pie faisait une moue sceptique. Tous ont l'allure barbare, précisa-t-il. Je n'y reconnais nul noble prisonnier. De fait, comme les arrivants réduisaient la distance, les sires de Froek et de Vaumacel les distinguèrent mieux. Ils n'y virent point la silhouette dégagée du fils du comte. Gruffu d'Aplivark se présentait escorté par une trentaine de Hauskarl et trois combattants montés. Comme le tan du Farbog, les cavaliers portaient un équipement composite d'armes barbares et bromaloises. Leurs prunelles claires, leurs faciès brutales et leurs excentricités capillaires appartenaient sans ambiguïté à des ouromans. Quoiqu'il eût déjà la carrure d'un solide gaillard, l'un d'entre eux paraissait très jeune. C'était à peine si un fin duvet ombrait ses joues. Rien d'innocent ou de timide dans sa contenance. Il affichait un air aussi insolent et cruel que ses aînés. La bande de Gruffu d'Aplivark franchit le pont et se mêla aux guerriers qui en occupaient les abords. Flanqué des autres cavaliers, le tan traversa leurs rangs et ne s'arrêta qu'à deux longueurs de lance des chevaliers.
« Où est l'or ? »
s'écria-t-il sans se donner la peine de saluer.
« Où est monseigneur Claudas ? »
rétorqua Gérion de Froek avec colère. L'émissaire Hartclyde lâcha un ricanement suffisant.
« Tu es vraiment bouché, petit chevalier, » gronda-t-il.
C'est moi qui tiens l'otage, c'est moi qui dicte les conditions. Pas d'or, pas de prisonnier. Et ça va coûter cher à ton maître. Si je dois encore attendre jusqu'à demain, ce sera 1000 marks.
Baliverne ! S'indigna le banneret. Je produirai cette rançon sans contrepartie. Tu chercherais à la voler. Et je n'y gagnerai que ton mépris. 400 marks d'or, rien de plus. Et je veux voir Monseigneur Claudas dans l'heure. Sans quoi je romps les négociations. Vous tuerez le fils du comte, vous apporterez le renfort de Kimark au duché. Et toi, tu expliqueras à ton chef pourquoi tu lui as fait perdre une fortune.
Eh, quoi ? Et ton honneur de vassal ? Tu te couches dessus.
Je vengerai mon déshonneur dans le sang des tiens, chien cupide !
Le tan du Farbaug partit d'un gros rire.
Tu ne manques pas d'air, chevalier. Je crois plutôt que ce sont mes gars qui vont te faire la peau si je leur lâche la bride. Ça me démange d'ailleurs, tu commences à me chauffer les oreilles.
Puis, affichant une mine déçue, il ajouta
« Mais ça ne te rendra pas ton abruti de maître, et ça ne me donnera pas mes 800 marks. Alors, tâchons de nous entendre, toi et moi. Tiens, je vais même faire un geste. Voici une dernière proposition. Et tu as intérêt à l'accepter, sinon je pourrais bien te livrer à ma hirde. »
Du menton, il désigna la plus jeune des brutes qui l'accompagnait.
« Voici Gibika Abgislahar. Son père était le chef du clan Slagsbroder. Il a été tué à Rosmaenor. Ça fait de Gibika le nouveau chef de clan. Enfin, normalement. Eh bien, Ferbessac te le laisse en otage si tu commences à payer la rançon, comme ça... Tu as la garantie qu'on te le rendra, Claudas, quand vous aurez craché les 800 marks. Sinon, vous pourrez vous venger sur le fils de Gislahar. »
Le louvard Slagsbroder toisait d'un air hostile les chevaliers, mais n'avait pas l'air de comprendre un traître mot de ce que marchandait Gruffud à Plivark en Léonien.
« De qui te moques-tu ? »
gronda Gérian de Froek à l'adresse du Tan.
Qu'ai-je à faire de ce fils à putain? En lieu et place de Monseigneur Claudas, tu me vends un pourceau?
Je ne te le vends pas. Je te le prête. Eh, c'est un futur chef de clan. Il vaut largement ton Claudas.
À d'autres, je connais vos mœurs de sauvages. N'a-t-il pas des frères? À peine otage, il ne vaudra plus rien. Sa fratrie se déchirera son héritage. Je mettrai ma main au feu que toi et ton maître, vous avez comploté avec eux pour vous débarrasser de ce gêneur. »
Le Tan secoua la tête avec un air mauvais.
« Tu n'as que l'insulte à la bouche, chevalier. Je commence à en avoir plein le cul. Si tu veux que tout ça se termine mal, je crois que tu vas être servi. »
« Tu as raison. Il est temps d'en finir. Cette rencontre est close. L'or de la rançon servira à payer les troupes de Kimark. »
Le chef Hartclyde montra les dents en grognant quelque chose dans son dialecte. Toute sa bande s'ébroua comme une harde de sangliers, en se couvrant de boucliers et en se hérissant de fer. Les roseaux, au-dessus desquels voltigeait la pie, furent soudain froissés et abattus devant une nouvelle ligne de guerriers. Les chevaliers haussèrent les culs, prêts à volter.
« C'est ta dernière chance, » grommela le Tan. « La prochaine fois, il t'en coûtera 1000 marks. »«
La prochaine fois, je n'aurai que 10 pouces d'acier à te proposer. »
Le défi parut réjouir le barbare.
« Pourquoi attendre la prochaine fois ? Ton elfe et ton sous-fifre n'ont pas besoin de toi pour porter nos conditions. Battons-nous, que j'ai le plaisir de te tuer tout de suite. »
« Aujourd'hui, je suis venu en tant qu'émissaire, je ne suis pas libre de combattre. Mais j'ai hâte de te retrouver, Gruffud Aplivark, pour soulager tes épaules d'une tête enflée. »
Le Tan du Farbaug claqua des lèvres avec dérision.
« Du pipeau, » ricana-t-il.
Gérian de Froek ôta son gantelet et le jeta au pied du cheval de l'ennemi.
« Garde bien ce gant !»
aboya-t-il.
« Je reviendrai le chercher en même temps que Monseigneur Claudas !»«
Eh bien, c'est pas demain la veille !»
ricana Louroman. Et d'un geste insolent, il modéra les ardeurs de ses guerriers. En revanche, il ne fit rien pour empêcher deux d'entre eux de se disputer la pièce d'armure. Pendant ce temps, le sire de Froek pressait ses compagnons de tourner bride.
« Faut-il rompre les amarres avant d'avoir délivré le prisonnier ?»
s'étonna le chevalier au pis.
« Ils ne le relâcheront pas !»
pesta le banneret. « Ils ne cherchent qu'à nous voler et nous humilier !» Pendant que les chevaliers se détournaient, le Tan ouvrit les bras en contrefaisant un air bonasse.
« Ne fais pas ta mauvaise tête »
grommela-t-il.
« On discute, quoi !»
Mais les trois émissaires du comte de Kimark prenaient déjà du champ.
« Où est-ce que vous allez comme ça ?»
maugréa encore Grufude.
« Votre retraite est coupée. La bande Krixmande de Gundikar et la Hirde du roi avec le Drot et vont vous barrer la route. »
Faisant la sourde oreille, les chevaliers pressaient les flancs de leur monture pour s'échapper. Un tumulte de cris et de huées s'éleva de la horde barbare. Plusieurs carles rompirent les rangs en faisant mine de donner la chasse aux émissaires. Quelques lances s'élevèrent lourdement dans les airs avant de se ficher sans mal sur les traces des chevaux. Toutefois, ces manifestations d'hostilité restèrent sans suite. Le Tan Dufarbog vociféra quelques mots dans sa langue et un énorme éclat de rire secoua ses guerriers.
« Les maudits chiens !»
gronda Gérian de Froek.
« Ils ne perdent rien pour attendre !»
Tout en suivant le mouvement, le chevalier Hopi avait l'air déçu. Au bout d'une centaine de pas, il exprima son sentiment. « Voici fort piètre façon de prendre congé. Je suis incommodé par ces rires et jurons. Si nous retournions rendre la politesse à ces goujats malgracieux, des mots bien frappés et puis... fugue en vitesse.
Ah, sire Ameline, ce n'est pas l'envie qui me manque de charger dans le tas,
répondit le sire de Vaumacel. Mais nous abandonnons déjà le seigneur Claudas dans une grande détresse. Répondre aux provocations ne ferait que l'accroître. L'honneur consiste non à laver l'insulte, mais à l'essuyer pour éviter d'accabler le prisonnier.
Rejoignons plutôt Bantraet. Sauvons au moins l'or du comte et la vie de nos gens. »
conclut à contre-cœur le sire de Froek. Les chevaliers partirent au trot vers le château en ruine, la pie voltigeant au-dessus d'eux en jacassant bruyamment. Au bout d'un moment, sans même se retourner pour inspecter leurs arrières, l'aventureux du bois Oiselet annonça.
« Un ramassis de fâcheux s'est mis en marche et trotte sur nos talons. »
« Je suis étonné qu'il ne l'ait pas fait dès hier, » grogna le banneret du comte.
D'un commun accord, les trois chevaliers accélérèrent l'allure, sans toutefois pousser jusqu'au galop. Il fallait se dépêcher tout en ménageant les destriers. Les ruines du petit castel se détachaient de loin sur l'horizon littoral. Prête au départ, la troupe de Froek s'était déployée au pied des murs noircis, chevaux harnachés, et hommes équipés en guerre. Les couleurs vives des tabards et l'acier des armures rutilaient dans la lumière matinale. La bande Arclyde qui suivait de loin les preux se mit à rugir de façon menaçante. En se dressant sur ses étriers, Gérian de Froek fit signe à ses gens de son pennon. Il leur donnait l'ordre de partir sans attendre. Après un instant de flottement, sergent, archers, écuyers et pages se mirent en selle et prirent les devants. Piquant des deux, les trois seigneurs finirent par prendre le galop pour rejoindre leur escouade. Dans les airs, la pie protesta à grands cris à cause de cette brusque accélération. Les cavaliers eurent un rire moqueur pour les barbares qu'ils semaient derrière eux. Cette gaieté ne dura guère. Avant même d'avoir rattrapé leurs gens,
Les chevaliers reprirent un air grave. Battre en retraite vers le comté, sans ramener que l'audace de Kimark, entérinait leur échec. On risquait de les accueillir froidement à Neuvidine. Quand les seigneurs finirent par se fondre dans la troupe, ils sentirent combien la reculade pesait sur le moral des gens de guerre. Tout le monde marchait droit, mais le cœur n'y était pas. Il planait sur l'escouade la morosité des jours de défaite. Gérian de Froek affichait une expression fermée. Il ne pouvait que flairer chez ces hommes qu'il connaissait bien un mélange de soulagement et de doute. Soulagement de quitter le territoire conquis par l'ennemi, et doute sur l'honorabilité d'une telle conduite avant d'avoir versé la rançon. Une âme aussi farouche que celle du chevalier de Froek ne pouvait qu'être offensée par ces deux sentiments. Mais dans sa conception du devoir, la prudence l'emportait sur l'orgueil. En dernier ressort, le comte Anguzel jugerait si sa décision avait été avisée. Toutefois, avant de rendre des comptes aux suzerains, encore fallait-il gagner le château de Neuvidine, où le haut seigneur s'était enfermé avec une partie de son armée. 12 grandes lieues séparaient Bantraet de la forteresse qui défendait la marche occidentale du comté. 12 lieues pour l'essentiel tombées sous la domination ennemie. En temps de paix, la troupe aurait fait le voyage en deux étapes, passant la nuit à Rosmaenor, en terre du Cal, avant de prendre la route de Mormark, au sud des hautes terres d'Agurande. Mais depuis la défaite d'Aber Béchan, nul ne savait avec certitude ce qu'il était advenu du château de Rosmaenor. D'aucuns espéraient que la place du Cal était toujours tenue par l'arrière-garde bromaloise. D'autres pensaient que la forteresse avait fini par tomber, comme paraissaient en attester les raids romans qui avaient atteint la vallée du Vernobre. Dans le doute, la troupe du sire de Froek avait évité Rosmaenor en gagnant le pays de Brekezan. Au retour, elle reprenait le même itinéraire. En coupant par la vallée du Nantizel et par le bourg de Milinkapel, la distance à parcourir était un peu plus courte, mais les chemins étaient moins bien frayés que la route de Rosmaenor. Certains passages, tout particulièrement le gué de Rid i Nantizel, étaient dangereux. Et en d'autres endroits, le trajet coupait dans des régions malfamées, comme le bosquet de Coedu. Sitôt que les cavaliers eurent semé les barbares du Tan du Farbog, Gérian de Froek ordonna de ralentir l'allure. Pour économiser les forces des chevaux, on alterna les périodes de trot sur les portions de route dégagées et une marche au pas plus prudente dans les voies sinueuses et bordées de haies. En profitant de la durée d'une journée d'été, les chevaliers espéraient rentrer dans le comté en une seule étape, en arrivant à Neuvidine à la brune. Mais pour cela, il fallait éviter de crever l'écurie et échapper au péril que pouvait leur réserver la route. Les premières menaces se profilèrent alors qu'ils arrivaient aux confins du Brekezan et des finages de Rosmaenor. La grande plaine côtière faisait place à des campagnes vallonnées, aux collines peu élevées et aux vallées peu profondes, mais dont le relief capricieux, où alternaient bois, prairies et quelques tourbières, renouvelait sans cesse le paysage. En des temps ordinaires, la région était pleine d'agréments. Les hivers parfois rudes du sud du duché s'y trouvant adoucis par le voisinage de la côte. Mais en période de guerre, haies, bosquets, tours et détours des chemins donnaient aux voyageurs le sentiment inconfortable de risquer à tout moment d'être accroché par une troupe ennemie. Or, par-delà le vallon du Nantizel, il apparut aux gens de Kimark que dérivaient d'épaisses fumées blanches. Ces panaches ne ressemblaient pas aux volutes plus sombres qu'aurait craché l'incendie d'un village ou d'un château, mais quelque chose brûlait bel et bien à quelques lieues, sur le trajet qu'ils suivaient. Le chevalier de Froek et ses compagnons ne se donnèrent guère de temps pour délibérer. Ils ne voulaient pas courir le risque d'être talonnés par d'éventuels poursuivants et le foyer flambait encore assez loin, au-delà d'une antiselle. Tout au plus, le banneret détacha-t-il quelques cavaliers en éclaireurs et en flanc-garde, pour parer aux mauvaises surprises, et l'escouade poursuivit sa route vers la rivière. Le Nantizel forme un petit affluent de la Claye. Né des versants occidentaux des hautes terres d'Agurande, il arrose les finages de Neuvidine et de Millincapel, puis s'incurve vers le sud en entrant sur les terres du Cal. Au lieu de rejoindre le Vernobre, il ondule dans le Brequesan avant de grossir la Claye un peu avant son embouchure. Quoique modeste, il se musse entre des berges profondément creusées, enserrées par les racines des arbres qui ombragent son cours. Pour le franchir avec des chevaux ou des charrois, il n'est guère qu'un passage, aride et inantiselle. Au débouché du hameau, la rivière s'étale sur un vaste lit de galets qui forme une pataugeoire en toute saison. Mais la campagne alentour étant quadrillée de haies et de bosquets, le gué est environné de verdure. Les voyageurs qui l'empruntent ne voient rien au-delà des frondaisons, ce qui rend l'endroit propice aux mauvais coups en période de trouble. Lorsque le banc de Froek s'engagea dans le village, il y régnait un silence de plomb, troublé seulement par quelques chants d'oiseaux et le murmure de la rivière. Ridi Nantizel avait été pillé et déserté. Les pauvres chaumières, les fenils, le moulin à aubes et le petit oratoire consacré à la vieille déesse béaient, portes enfoncées, sans dessus-dessous. Le modeste mobilier paysan avait été brisé et éparpillé jusque dans l'unique rue. Il ne restait plus ni porc, ni mouton, ni poule. Étrangement, nul corps n'était visible, comme si les manants avaient réussi à prendre la fuite avant l'arrivée des ouromans. Cependant, ça et là, quelques traces de sang séché attiraient des essaims de mouches. Des violences qui avaient été perpétrées dans cette humble bourgade, il ne demeurait pourtant personne, vivant ou mort, qui pût apporter témoignage. La troupe du sire de Froek traversa le hameau dans une humeur lugubre, en se tenant sur ses gardes. Arrivé au bord de la rivière, le chevalier Opi envoya son oiseau sur l'autre rive, puis le suivit en éclaireur. Après avoir disparu quelque temps derrière les halliers, il réapparut et fit signe à ses compagnons que le gué était sans danger. Le Nantizel fut passé sans alarme. Une fois d'eau à la rivière, la colonne de cavaliers remonta le chemin en direction du vallon de Coédu. Quoique large et bien entretenue, cette voie charretière n'était empruntée qu'à contre-cœur par les gens du pays. Elle desservait le sanctuaire du desséché, où étaient inhumés les défunts des villages voisins. D'ordinaire, on évitait de déranger la paix des morts et des frères dessicatoriens tant qu'on n'y était pas poussé par des raisons funèbres ou testamentaires. Même si le bosquet de Coédu n'avait pas l'ampleur des grands parcs funéraires qui s'étendaient au voisinage des villes, il était confusément redouté par le petit peuple local. À travers tous les territoires qui avaient jadis été des provinces du royaume de Léomance, une ombre restait attachée au clergé du desséché. Et plus simplement, les superstitions paysannes attribuaient au fossoyeur une fâcheuse propension à attirer le mauvais œil. Ce fut toutefois un sinistre d'une autre nature que découvrirent les chevaliers et leur suite lorsqu'ils arrivèrent aux abords du vallon. Le sanctuaire achevait de s'y consumer. Des arbres calcinés ébauchaient une nef squelettique où s'enroulaient encore des fumerolles. Ça et là, quelques flamèches paresseuses achevaient de racornir les écorces ou de ronger des aubiers. Entre ces piliers carbonisés, le parc funèbre avait brûlé jusqu'au sol. Des parterres et des haies, il ne restait que des chicots noirâtres sur un tapis de cendres, où gîtaient encore quelques stèles couvertes de suie.
Au milieu de cette désolation, certaines outrances révélaient l'acharnement que les Vandales avaient mis à la profanation. Le caveau qui servait d'entrée aux hypogées n'était plus voilé par les feuillages. Non seulement il avait été détruit par le feu, mais les incendiaires avaient entassé un bûcher grossier sur le seuil pour en condamner l'accès. En lisière du sanctuaire, deux corps étaient encore pendus aux branches maîtresses d'un if, à moitié épargnés par les flammes. Ils portaient la robe noire des Desiccatoriens. Ils ne formaient pas les seules victimes de ce saccage. Au bas de l'arbre voisin, qui avait flambé jusqu'à la cime, gisaient trois corps carbonisés. Ils avaient chu quand les cordes avaient brûlé. Les cendres de leur habit s'étaient incrustées aux chairs rôties. Mais bien que la crémation les eût rendus méconnaissables, il était visible qu'on leur avait tranché les pieds avant de les abandonner au feu. Toute la troupe fit une station muette de saisissement devant ce désastre. Deux jours plus tôt, quand les cavaliers avaient gagné la Bréquesan, ils étaient passés à la lisière d'un bosquet touffu et empreint d'une paix mélancolique. Après un moment de sidération, les rangs des cavaliers furent parcourus de murmures chargés de colère. « Maudits impies, chiens de païens !» gronda Gérian de Froek. « Détruire des sépultures, supplicier des prêtres !» Ces paroles attisèrent les grognements vengeurs parmi ces gens. Le frère Vinmer, qui s'était porté à la hauteur des chevaliers, considérait aussi cette dévastation d'un œil noir. « Confiez-moi une épée » grommela-t-il, « et je serai le premier à laver ce sacrilège dans le sang !» Cependant, quoique toujours bouillant d'indignation, il ajouta un ton plus bas. « Mais ne commettez pas l'erreur de croire que cette sauvagerie est sans objet. Il y a un dessein derrière ces horreurs. » Ceux qui avaient entendu ces paroles lui jetèrent des regards incrédules ou troublés, à l'exception du chevalier au pis, qui continuait à contempler les ravages et les corps d'un air ennuyé. « Quel dessein hors la rage de détruire ?» gronda le sire de Froek. « Les Artclyde confondent nos frères Desiccatoriens avec les sorciers entrés au service de leurs ennemis, les O'Hare. C'est la raison pour laquelle ils profanent les bosquets. » « Que sont donc ces sorciers ?» s'enquit le chevalier de Vaumacel. « Je l'ignore. Les Ouromans prétendent qu'ils sont venus des Landes grises. Leur maléfice ressemble beaucoup à la nécromancie royale. » D'un geste, le frère sergent montra les dépouilles martyrisées. « Voyez, ces bouchers leur ont coupé les pieds. Ils croient qu'ainsi, ils les empêcheront de revenir. » Bien qu'ils n'eussent pas le temps de donner une sépulture aux religieux, le chevalier de Froek ordonna à ses gens de décrocher les pendus et de couvrir les cinq dépouilles sous un peu de cendre. Sitôt ces macabres devoirs accomplis, la troupe repartit dans un silence pesant. Toutefois, à peine sortis du vallon de Coédu, d'autres fumées bouillonnant sur le paysage ravivèrent les alarmes. « C'est dans la direction du comté, » s'inquiéta le sire de Vaumacel. « Serait-il possible que Neuvidine brûle ?» Quoiqu'il eût l'air grave, Gérian de Froek fit une moue sceptique. « Nous sommes encore loin de Neuvidine, » objecta-t-il. « Non, je crois plutôt que c'est Méline Capel qui est attaquée. » « Il ne doit plus rien y demeurer qui vaille, » s'étonna Sir Edan. Le bourg avait déjà été mis à sac quand nous l'avons traversé avant-hier.
« Justement, »
grommela Vinmer,
« de dépit, des pillards enragés auront bouté le feu. »«
Vous voyez juste, frère sergent, » renchérit le banneret. « C'est sans doute une seconde bande, peut-être celle qui a ravagé le bosquet. » En d'autres circonstances, je l'aurais étrillé avec joie. Mais dussé-je aller contre ma soif de vengeance, je ne peux jeter l'or de Kimark dans les hasards d'un combat. Il nous faut contourner ce malheureux village. Quittant la voie charretière, la troupe coupa par les bois et les champs. La colonne, guidée par des archers familiers du pays, marcha à l'abri des haies, des lisières et de quelques murs de pierres sèches. Il fallait parfois se pencher sous les feuillages percés de raies de soleil, froisser le blé encore vert ou franchir des ruisseaux peuplés de fretins et d'écrevisses. Ce détour prenait de faux airs de promenade bucolique, alors qu'au loin, au-dessus des houppiers de grands arbres, dérivaient les nuées d'incendie. L'échappée champêtre invitait insidieusement à la flânerie et au relâche, d'autant que la fatigue se faisait sentir. Le soleil était haut dans le ciel, les chevaux commençaient à renâcler. Corsetés dans leurs gambisons matelassés et leurs armures d'acier, les cavaliers suaient à grosses gouttes. Cependant, au milieu de cette belle journée d'été, tout ce qui réjouissait le cœur se trouvait infecté par l'omniprésence du péril et l'impression laissée par les atrocités. C'était à peine si les gens de guerre accordaient à leur monture un instant pour boire à une source. Il fallait à toute force se faufiler loin des terres écumées par les ouromans, et le crochet fait à travers la campagne allongeait d'autant la distance à couvrir. Cette interminable étape épuisait hommes et bêtes. Siquel restait étonnamment alerte, les petits pages du chevalier Hopi somnolaient en selle. Un masque las creusait le visage du frère Vinmer, pour qui cette longue chevauchée représentait une épreuve après sa captivité. De temps à autre, le vieux Nem glissait un coup d'œil préoccupé à son seigneur, comme s'il craignait que cet équipé finît par excéder les forces fraîchement recouvrées du chevalier. Pourtant, la troupe du sire de Froek parvint à contourner le bourg dévasté sans attirer l'attention de l'ennemi. Remontant un fond de vallée laissé en jachère, elle abandonnait désormais les fumées sombres derrière elle, et un début de soulagement détendait les hommes. Ce fut alors que la pie se mit à crailler furieusement. Presque aussitôt, son maître élevait le bras vers le coteau qui dominait la colonne. À la lisière d'un petit bois qui occupait le sommet, était alignée une autre escouade de cavalerie. Moins nombreuse que celle du banneret, sa position en surplomb lui prêtait néanmoins une allure menaçante. Cependant, si les visages des cavaliers étaient tournés vers les gens de Kimark, les chanfreins des destriers étaient orientés vers l'incendie. Ce petit peloton cuirassé paraissait avoir été attiré par les ravages des ouromans plutôt que par la troupe de Froek.
« Ce sont des ducaux !» s'écria Kell. « Dans les couleurs, je vois le cerf Héliophor. Il y a aussi l'ours de sable de Cacvel. »
Gérian de Froek ralentit l'allure sans s'arrêter tout à fait, provoquant un attroupement derrière lui. Il considérait d'en bas ce petit détachement bromalois, délibérant en silence sur la conduite à tenir.
« La courtoisie nous impose de saluer ces chevaliers, » observa tranquillement le sire de Vaumacel. « Vous avez raison, » convint le banneret. « Mais la présence d'Urféan de Cagvel me chiffonne. Nous l'avons malmené le jour des commensailles, à l'Indinas. » Il pourrait être mal disposé à notre égard, et nous n'avons pas de temps à perdre en chicane.
Il semble, du moins, qu'il a survécu à la bataille d'Aberbéchan. Nous pourrons l'en complimenter.
C'est bien parlé, Sir Edan. Désormais, mieux vaut oublier les querelles entre Kimark et Bromel.
Ayant commandé à ses suivants de faire halte, le sire de Froek, flanqué du sire de Vaumacel, entreprit de remonter le coteau en direction du parti bromalois. Bien qu'il n'eût point été invité, le chevalier Hopi se joignit à eux. Du haut de la colline, les hommes d'armes les regardèrent approcher un moment. Puis, par politesse, trois chevaliers se détachèrent de l'escouade et condescendirent à faire quelques pas à leur rencontre. Arrivés à une longueur de lance, les six preux s'arrêtèrent. On se trouvait entre gens de connaissance. Le trio bromalois était mené par un jeune chevalier un peu pâle, dont le regard sombre exprimait un mélange de fermeté et de mélancolie. C'était ce seigneur qui portait les armoiries ducales, sommées d'un lambel de gueule. Les émissaires de Kimark lui manifestèrent aussitôt la déférence due à son rang.
Quelle heureuse fortune de vous rencontrer en ces temps troublés, monseigneur, salua Gérion de Froek. Votre présence parmi tant de malheurs suffit à nous rendre espoir.
Lanval de Bromel accueillit ces mots d'un air plus distrait que flatté. Puis son attention glissa sur le chevalier de Vaumacel, et son expression parut se fermer.
Ah, sire Urféan, poursuivait le sire de Froek sur un ton plus familier. Il y a peu encore, je n'aurais jamais cru avoir tant de plaisir à vous revoir.
Nuque raide lui adressa une grimace qui tenait davantage du rictus que du sourire.
Et moi, Froek, j'aurais eu grand plaisir à te retrouver plus tôt, quand nous nous sommes frottés à ces chiens d'Ouromagne.
Ah, croyez-moi, Urféan, que n'aurais-je donné pour être des vôtres? Je vous aurais assisté du mieux que j'aurais pu. Nos querelles avec le duché n'empêchent point la fraternité d'armes. Du moins, ai-je la consolation de voir que vous ne faites point mentir votre réputation de vaillance. Vous avez su échapper au pire.
Le chevalier de Cacvel fit une moue amère.
Nulle gloire à cela, répliqua-t-il. Je n'ai pas franchi le pont d'Aberbechan. Je me trouvais dans l'arrière-garde, dans l'entourage de son Altesse ducale. Bizarrement, c'est la blessure que j'ai reçue à Lindinas qui m'a sauvé la vie.
Eh bien, quelque chose malheur est bon, commenta le sire de Froek. Au moins, ce triste tournoi vous a rapporté plus chance qu'à monseigneur Clodas.
Revenant au fils aîné du duc, il ajouta
« Mais vous, monseigneur, je crois savoir que vous avez été parmi les premiers à passer le pont. Vous avez combattu avec monseigneur Clodas. Je m'émerveille d'autant plus de vous retrouver aujourd'hui. »
Le jeune seigneur ne parut pas particulièrement flatté par ce témoignage.
« Fortune des armes ?»
suggéra-t-il avec plus de fatalisme que de modestie.
Mais par quel prodige êtes-vous revenu sur la rive droite? Avez-vous réussi à repasser le pont?
Non, trop de corps. Il n'était plus praticable.
Vous avez franchi le fleuve? En armes?
J'ai toujours eu une affinité avec l'eau.
Lanval de Bromel lâchait ses brèves réponses sans y accorder grande importance. Ses yeux ne quittaient point le chevalier aux épines et il finit par lui adresser la parole.
« Je suis bien fâché du coup traître que vous avez reçu à Lindinas, Vaumacel. Il nous a privés de l'explication dont nous étions convenus. Mais vous avez l'air tout à fait remis. J'en suis fort aise. Nous pourrons donc reprendre ce débat. »
Votre attention m'honore, monseigneur. J'étais moi-même mari de n'avoir pu tirer la question au clair.
Où aviez-vous pris cette manche que vous aviez l'impudence de porter?
Permettez-moi de vous retourner le compliment. Il n'est point dans mes mœurs de voler leur faveur aux dames.
Êtes-vous de ces inconstances en délicatesse? Des faveurs, dites-vous. Celle de ma belle-mère ne vous suffisait point?
À Lindinas, j'arborais les trois immortels pour défendre l'honneur de Dame Odéarde. Ainsi faisaient tous les preux du dedans. Quel mal à porter les couleurs de deux dames si la loyauté que l'on a pour l'une n'empêche point l'amour que l'on a pour l'autre? En revanche, il est plus fâcheux de voir deux chevaliers porter les couleurs de la même dame par galanterie.
Je ne saurais mieux dire.
Le chevalier de Froek ne put contenir un geste d'humeur.
Seigneur, rabroua-t-il, ce n'est plus le lieu ni le moment.
Hélas,
concéda Lanval. Et cela me chagrine fort, car malgré tous les combats et les désastres que nous avons soufferts, cette affaire ne me quitte point l'esprit.
Dans ce cas, monseigneur, convenons d'un arrangement, dit le chevalier aux épines. Faisons notre possible pour survivre à cette guerre. Portons-nous assistance à cette fin, en sorte que nous puissions régler ce différend sitôt l'ennemi bouté hors du duché.
La belle ligue que voilà,
s'esclaffa le prince ducal.
Un pacte de rivaux. Mais je sais bien que l'on médit de moi dans mon dos et que l'on me prétend sans cervelle. Aussi, malgré que j'en ai, je vais tâcher d'être sage. Remettons à plus tard notre querelle, Vaumacel. Vous m'avez épargné la capture par des gens de peu à l'Indinas. Je vous dois bien ce geste.
Le chevalier Opie n'avait guère montré d'intérêt pour cet échange. Profitant du point de vue offert par la faible éminence, il portait ses regards vers l'ouest. Du haut du coteau, on découvrait, distant d'une grande lieue, les terres et le bourg de Mélincapel. De nombreux incendies crachaient d'épaisses fumées inclinées par la brise. Plus d'un champ fumait des haleines de brûlis. Aux abords du village, les trois moulins qui faisaient sa prospérité crachaient de hautes flammes rouges. Chaumines et greniers embrasés enroulaient leurs vapeurs ardentes autour du moutier. Les réserves des forges soufflaient des tourbillons de fumée noire. Quittant le sinistre, 200 à 300 silhouettes se regroupaient sans grand ordre.
Ce gros ramassis de gueux ne ressemble pas trop à la hirde royale,
observa Sir Hamelin.
Je pense que c'est plutôt Gundikar flanqué de ses troupes brutales.
Cette hypothèse reçut l'assentiment des chevaliers ducaux.
Voilà qui est bien vu, l'aventureux,
s'étonna le sire de Cagvel.
D'où diable un étranger comme vous connaît ce scélérat de Gundikar?
Oh, pour le dire en deux mots, je l'ai rencontré à la cour aux Romandes.
L'aveu délivré sur un ton léger ébahit les seigneurs bromalois. Sir Hamelin nous a servi d'ambassadeur pour fixer la rançon de monseigneur Clodas, se hâta de préciser le chevalier de Froek. Ces paroles suffirent à détendre l'atmosphère. Le chevalier Opie n'en conservait pas moins un sourire teinté de malice.
Ainsi, c'est pour cette affaire que vous vous risquez hors du comté,
déduisit le prince ducal.
Avez-vous racheté mon cousin Clodas?
Pas encore, grommela le sire de Froek. Ces barbares sont pires que des maquignons.
Décidément, mon cousin va coûter fort cher au comte. Pour autant, je ne crois pas que mon seigneur, mon père, le tienne quitte de sa dette.
Je doute que monseigneur Anguzel l'entende de cette oreille. En changeant de geôlier, monseigneur Clodas ne doit plus rien au duc.
L'argument peut se défendre, mais...
Lanval de Bromel esquissa un geste d'excuse.
Vous connaissez mon père, toujours à court d'argent, surtout après nos déconvenues.
À vous entendre, il gouverne en tout cas. C'est une bonne nouvelle. On a cru un moment qu'il avait pu être tué à Aberbechan. Puis la rumeur a couru qu'il avait été blessé.
Il a bel et bien été blessé. Une chute de cheval dans la bousculade de la défaite. Grâce soit rendue au resplendissant. Plus de peur que de mal. Il sera bientôt en état de remonter en selle.
Mais vous, seigneur Lanval, que faites-vous ici, en si petite compagnie?
Eh bien, un peu comme vous, je gage. Je cherche l'ennemi. Je viens sonder la plaie.
N'est-ce point vous exposer inconsidérément? Il serait plus prudent de confier ses reconnaissances à vos vassaux.
Le prince eut un haussement d'épaule. Rien de mieux que le péril et la guerre pour oublier l'ennui,
opposa-t-il.
Et puis j'ai été formé à bonne école chez mon oncle Angrais. En Brocmel, les incursions barbares sont incessantes.
et je connais mieux les Ouromans que nombre d'officiers de l'hôtel ducal. »
À propos de l'hôtel ducal, intervint le sire de Vaumacel. Qu'en est-il de Monseigneur Blancandin? A-t-il survécu à la bataille d'Aberbéchan?
Soyez sans crainte, Monseigneur mon père le gardait près de lui. Mon demi-frère lui a même porté secours au moment où il a chu de cheval. Si je manquais de charité, je pourrais presque dire que la déroute lui a profité.
Les chevaliers de Quimarc se réjouirent de la nouvelle.
Corps de roi! S'écria Gérian de Froec. C'est la dame très sage qui vous a mis sur notre route, Seigneur Lanval. Les nouvelles dont vous êtes porteur nous allègent le cœur. En contrepartie, voici le peu que nous avons appris. Ferbassac a quitté Vekinsberg, bien qu'il y ait laissé des troupes. Nous ignorons où il se trouve, mais nous tenons de l'un de ses vassaux qu'il pourrait toujours écumer la région. En tout cas, on nous a menacé de trouver notre retraite coupée par la hirde royale.
« Voilà qui ne nous avance guère, » grommela le chevalier de Cagvel. « Nous ne savons que trop Ferbassac en campagne. Nous essayons de le trouver. Après avoir lancé un coup de main contre le château de Canderas à deux pas de Carwell, il s'est volatilisé. On a cru qu'il voulait attaquer Chaer-le-Duc ou revenir prendre Rosmaenor, mais on ne lève que des pillards, comme les Krixmans de Gundikar. »
« Nous finirons bien par le débusquer, » assura Lanval. Le connétable a envoyé d'autres enfants perdus remonter l'Andoun. Il craint une alliance entre le barbare et Méléagan. Ensemble, ils pourraient menacer la haute vallée du Vernobre.
Le sire de Froec ne cacha pas son étonnement. « Le connétable ? » releva-t-il. « Nous le croyons mort. »
« Malheureusement, le seigneur de Traval n'est plus de ce monde. » Il a été tué en première ligne à Aberbéchan, mais le duc ne pouvait laisser Lost sans capitaine dans une telle extrémité. Et Chivard de Maginois ceint désormais l'épée de la connétablie.
Le baron de Maginois? On nous a rapporté que son fils, Sir Dilsin, n'a pas réchappé d'Aberbéchan.
C'est la triste vérité. Il s'est noyé à moins de 10 toises de moi, sans que je pusse rien faire pour le sauver. C'est vous dire combien son père hait désormais les Ouromans.
Voici une cruelle fin pour un jeune chevalier de vieille lignée. Le baron doit en éprouver une terrible affliction, comme la duchesse Odéarde, sa tante.
La mention du titre dont sa belle-mère avait été déchue n'inspira qu'un sourire équivoque au prince. Le chevalier de Froec, qui avait cité la qualité de la dame à dessein plutôt que par étourderie, n'appuya pas de façon grossière et changea de sujet pour chasser le nuage.
« Il est imprudent de s'attarder si près de l'ennemi, » dit-il. « Et vous êtes à plus d'une étape de Carwell. Nous regagnons Neuvidine. Si vous le souhaitez, monseigneur, joignez-vous à nous. La route est encore longue. » Mais vous aurez l'assurance de pouvoir dormir sur vos deux oreilles entre nos murs. »
Lanval déclina l'invitation d'un vague signe de tête. « Nous avons d'autres projets, » répondit-il. « Nous tâcherons de contourner le siège de Rosmaenor pour entrer au château. Sinon, nous trouverons bien un refuge du côté de Todev. »
Dans ce cas, nous nous séparerons ici. » Mais ce fut une heureuse rencontre en ces temps désolés. Puisque l'occasion s'y prête, avez-vous quelques messages pour Monseigneur Anguzel?
Dites-lui de sortir au plus tôt de sa tanière. Ferbassac nous a vaincus par ruse. Mais nous avions massacré une grande presse de guerriers Isenvirta et Slagsbroder à Rosmaenor. Avec l'appui des troupes de Quimarc, nous reprendrons l'avantage.
« Je lui manderai fidèlement vos paroles. Toutefois, je ne saurais garantir qu'il réponde à vos vœux. Tant que Monseigneur Claudas est aux mains de l'ennemi, la marge d'action de Monseigneur Anguzel est étroite. »«
Il ne tiendrait qu'à moi. Je tenterai un coup d'audace contre Vekinsberg pour délivrer mon cousin tant que Ferbassac est ailleurs. Hélas, ni mon père... ni le connétable, ni même le bâtard ne sont prêts à donner un second assaut contre la ville. Qui sait ? qui marque sera peut-être plus vaillant qu'eux. »
Sur ces mots, les hauts hommes se saluèrent. Les preux du comte redescendirent vers le fond de vallée, tandis que les chevaliers du Caux reprenaient leur vigie sur la colline. De loin, Lanval de Bromel héla une dernière fois le chevalier aux épines.
« Ne m'oubliez pas, vos macelles. J'ai votre parole. Restez en vie, afin que le temps venu nous puissions vider notre querelle. »
Vers la fin de l'après-midi, l'escouade du chevalier de Froek rejoignit le chemin de Rosmaenor à Neuvidine. Le château, quoique distant encore de quelques heures de marche, dessinait son épure de miniature dans les lointains bleutés. Il siégeait sur une colline isolée en bordure des campagnes de Kimark, dernier bossage des hautes terres d'Agurande, dont on devinait, plus reculés encore, les reliefs sur les horizons. La vue de la forteresse donna un regain d'énergie aux hommes moulus par la chevauchée. Ce fut heureux car, peu après, ils rattrapèrent une poignée de barbares crixements qui maraudaient sur les lisières du comté. Ils les chargèrent l'âme au clair et en tuèrent 3 ou 4 tandis que les autres fuyaient dans un bois. Malgré sa colère, Gérian de Froek retint ses hommes. Les chevaux étaient trop fatigués pour se lancer dans une poursuite, et la nuit tomberait avant qu'ils ne fussent rendus. La traque, en outre, eût couru le risque de donner dans une embuscade. Le banneret octroya une brève pause à la compagnie, surtout pour que les montures prissent un peu de repos. Puis la troupe repartit dans les ors du soir. Halte insuffisante après les 10 lieues qui avaient déjà été abattues. Les chevaux marchaient avec lassitude, la tête basse, indifférents aux mouches qui se repaissaient de leur sueur. L'escouade entra dans les premiers finages de Neuvidine à la fin du jour. Les gens de guerre traversèrent des hameaux épargnés, mais barricadés et déserts. Plus trace de bétail dans les communaux. C'était à peine si, étonnés par le silence, quelques chiens errants et de rares poules rôdaient encore aux abords des masures. Dans le dos des cavaliers, les flamboiements du couchant se trouvaient ternis par de lointains panaches d'incendie. Une nuit d'été, animée par l'appel des chouettes et le glapissement des renards, encalmina les campagnes inquiètes. Bien qu'il fît sombre, le ciel s'alanguissait dans un bleu profond, où s'attardait un fantôme de jour. Champs et lopins s'estompaient, tels des grèves crépusculaires, tandis que la brise courait en frise-lise obscure dans le feuillage des vergers et des bosquets. Le château resplendit un moment dans les derniers rayons du soleil, au-dessus des bocages baignés de pénombre. Puis, lorsque la nuit engloutit les terres, les feux s'allumèrent un à un sur le chemin de ronde. Phares dressés sur une marche que battaient les flots de l'invasion, Neuvidine offrait ses fanaux aux voyageurs.